Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Leguet.
Dans la chronique des livres que nous poursuivons de semaine en semaine, je voudrais aujourd'hui vous parler du livre de Joseph Ratzinger ou de Benoît XVI, les deux auteurs sont présents sur le titre de la couverture, intitulé « Jésus de Nazareth ». Alors, comme tout le monde le sait ou comme tout le monde s'en souvient, le cardinal Ratzinger, devenu pape entre-temps, est associé étranger à l'Académie des sciences morales et politiques et donc a été reçu le 6 novembre 1992 ici, à l'Institut, par Raymond Paulin et Jean Foyer. Alors, effectivement, comme je le disais, il y a deux auteurs intitulés, mis clairement sur la couverture, donc Joseph Ratzinger et Benoît XVI. C'est une situation qui est relativement inédite, cette double signature. Jamais un pape n'a signé de son nom d'avant un livre. Certes, il y a eu des livres qui ont été faits plus personnels de pape, mais jamais de cette manière-là, et jamais sur un sujet qui est un sujet sensible, celui effectivement d'un Jésus, non pas d'un Jésus-Christ ou d'un Jésus-Roi, mais d'un Jésus de Nazareth. Cette situation est tellement inédite que certains se demandent qui est l'auteur de ce livre. De manière évidente, et Joseph Ratzinger le dit au début, ce livre est un livre personnel. Il dit que c'est l'expression de ma quête personnelle, et donc chacun, dit-il, est libre de me contredire. Et il précise que ce livre n'est pas un acte de magistère, et donc il nous faut considérer ici que l'auteur est bien Joseph Ratzinger. Alors que dit-il ? Il dit, c'est du moins son point de départ, qu'il a l'impression, à juste titre, que la figure de Jésus s'est progressivement diluée, qu'elle a disparu au fur et à mesure des années au regard de l'appareil critique qui s'est progressivement appesanti sur Jésus. Et donc, à force d'être étudié d'un point de vue de la science historique, le fossé s'est établi entre le Christ de la foi et ce même Jésus historique. Et donc, pour lui, il importe de revenir à quelques principes d'analyse simples. Et je voudrais ici développer la méthode qui est celle de Joseph Ratzinger et qui est, me semble-t-il, l'élément le plus intéressant. Il faudrait après qu'on aborde les différents chapitres, mais qui est le point le plus intéressant, d'une certaine façon, ce rappel à la méthode, à défaut d'être un rappel à l'ordre. Premièrement, dit-il, la méthode historique est indispensable. Donc, il ne la critique pas en tant que telle. Il dit qu'effectivement, cette méthode est nécessaire, considérant que Dieu étant dans l'histoire réelle, la foi exige, je le cite, cette confrontation de la foi avec la méthode historique. Mais à cela, il met deux bémols. Le premier, c'est que cette méthode historico-critique peut épuiser, d'une certaine façon, son sujet sous un amoncellement d'interprétations qui entrave une juste compréhension des textes eux-mêmes. Deuxième bémol, il dit que cette méthode en elle-même a ses limites. Elle renvoie toujours à des situations historiques passées, à une parole d'autrefois. Or, pour le croyant, ces paroles sont aussi d'actualité. Et donc, il importe de rendre vivant cette parole et de ne pas considérer qu'elle appartient seulement à un temps historique précis. Par ailleurs, pour lui, dit-il, il importe de prendre ces textes bibliques, non pas séparément les uns des autres, mais dans une certaine cohérence. Et la méthode historico-critique n'est pas capable de redonner cette cohérence qui n'est pas une cohérence critique, qui n'est pas une cohérence historique, mais qui est une cohérence, disons, spirituelle. Et donc, il développe dedans l'idée qu'il se fait de l'écriture comme un processus cumulatif, comme un processus de perpétuelle relecture, comme un processus de parole qui s'ouvre à des semences de compréhension, d'interprétation présentes dans le texte et qu'il importe de vivifier. Et donc, nous sommes là à la frontière entre cette méthode historico-critique et la foi qui, elle, ne résulte pas de cette même méthode. Et plutôt que de dévaluer la foi, considérant que la foi ne serait que quelque chose de subalterne ou quelque chose qui irait à l'encontre de la raison, Joseph Ratzinger insiste bien, comme il le fait depuis toujours, sur un acte de foi qui est porteur de raison. C'est-à-dire que la lecture que l'on peut avoir des textes apporte un supplément de compréhension que la méthode critique n'est pas susceptible de pouvoir apporter. Et donc, les yeux de la foi, hein, comme disait le père Rousselot, les yeux de la foi sont seuls susceptibles de donner cette unité interne de l'écriture, cette unité transversale des textes les uns par rapport aux autres, ce qu'une méthode stricto sensu historique n'est pas capable de faire. Et Joseph Ratzinger montre bien qu'il y a dans la lecture ou dans la compréhension de l'écriture un double effet de dépassement. Le premier effet d'espacement, c'est que la parole inspirée, la parole biblique, ne vaut pas pour elle-même. Ce que disent les mots ne se limite pas au sens sémantique ou au sens historique. Il y a ce qu'il appelle une plus-value intérieure de la parole. L'auteur porte une parole qui le dépasse et porte un sens qui est en excédent des mots qu'il utilise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans la compréhension qu'il a de l'écriture, c'est que l'auteur, d'une certaine façon, n'est pas seul. L'auteur est dédoublé ou détriplé, si l'on veut. Il y a d'une part le rédacteur, l'auteur lui-même. Il y a d'autre part l'auteur qui appartient à un ensemble, à un peuple, à un sujet commun, au peuple de Dieu. Et puis, troisièmement, si nous parlons, comme nous en parlons aujourd'hui, de textes bibliques, ces textes sont inspirés. Le peuple, la communauté est guidée par Dieu. Et donc, il y a un effet de profondeur, enfin de Dieu qui parle en profondeur à l'homme. Donc, ces différents étagements, ces trois étages de l'auteur, de l'écriture, ne peuvent pas être restitués par une méthode qui se limiterait à la lettre, qui se limiterait aux mots eux-mêmes. Alors on peut prendre différents exemples de cela. Prenons par exemple le baptême de Jésus, ce que dit Joseph Ratzinger. Il y a certes une expérience de vocation, et cette expérience de vocation au moment du baptême de Jésus par Jean-Baptiste a été soulignée depuis bien longtemps par beaucoup d'auteurs, mais limiter ce baptême à cette seule expérience de la vocation, c'est sans doute ne pas bien comprendre, ne pas bien rentrer dans ce mystère qu'est Jésus lui-même. Jésus, dit Joseph Ratzinger, est au-delà de nos psychologies. Il n'est pas derrière nous, cet homme génial décrit par certains avec ses émotions, il est devant nous. On est bien dans ce décalage, dans cette séparation entre le derrière nous de la méthode historique et le devant nous de la foi. C'est-à-dire, s'il est devant nous, il est à la fois Jésus, celui qui est tout autre, et celui qui est en même temps notre contemporain. Il est à la fois celui qui est dans l'histoire et à la fois celui qui est plus intime, plus intérieur que notre propre intimité, selon ce que disait saint Augustin. Donc, ce dépassement concerne aussi la figure de Jésus. C'est-à-dire que réduire toujours cette figure à une figure historique, ce n'est pas tenir compte de sa particularité. Sa particularité, c'est bien, nous dit Ratzinger, c'est bien ce contact direct, ce face-à-face, ce dialogue constant avec le Père, cette nouveauté apportée dans ce dialogue-là. Et donc, ce que nous avons vu pour la figure de Jésus, nous pouvons le voir aussi pour la figure de Jean-Baptiste, disons-le assez vite. Certes, Jean-Baptiste est du milieu des Esséniens, hein, ce groupe des Juifs qui a pris une certaine distance avec le Temple et qui avait fondé, par souci de pureté, une communauté monastique. Mais il y a dans ce baptême du Christ, un élément de novation, de conversion, quelque chose de nouveau s'annonce. Alors, essayons de voir dans une deuxième partie, toujours au niveau de la méthode, ce qu'il faut en penser. Pourquoi peut-on imaginer que ce livre apporte quelque chose de nouveau. Alors, manifestement, dans tout le livre, il y a un refus de l'impérialisme de la méthode historico-critique. Cette méthode a dominé la science biblique, comme elle a dominé les sciences humaines pendant bien longtemps. Mais à force de n'être que dans la méthode, que dans la critique, que dans la déconstruction, le risque est aussi, pour les études bibliques, de disséquer le texte, au point même, sans doute, de le faire disparaître. Et donc, il importe toujours, voilà, c'est ça, d'une certaine façon, la novation de ce livre, d'en revenir à une méthode, disons, plus classique, une lecture plus classique des évangiles, qui considère que les évangiles, la Bible, forment une totalité, un tout, un ensemble, qui ne peuvent être compris qu'en tant que tels. Voilà. Disons que pour faire vite, il y a deux lectures possibles des évangiles, de la Bible, soit une lecture stricto sensu historique, celle par exemple de Bultmann, ce théologien luthérien qui voulait d'une certaine façon retirer toute la mythologie qui existait à l'intérieur du texte et en rester à la lettre. Et puis il y a, deuxièmement, une lecture, disons, d'une raison qui émergerait ou qui apparaîtrait au travers des yeux de la foi. Voilà. Et donc on en revient à ce que le père de Lubac, pour ne pas le citer, indiquait dans, disons, une lecture plus patristique, à savoir un empilement de sens historique, de sens moral, de sens mystique, considérant que l'écriture est un corps, donc une lettre, est une âme avec un sens intérieur, et est un esprit, c'est-à-dire quelque chose de céleste, enfin qui renvoie à Dieu. Donc nous sommes dans une exégèse, enfin patristique classique, que le père de Lubac, lisant Origène, définissait comme l'envie de saisir l'esprit dans l'histoire et le passage de l'histoire à l'esprit. Voilà, nous sommes bien dans cette lecture spirituelle. Alors, je passe sur un certain nombre de thèmes transversaux qui sont très présents dans le livre et sur lesquels il faudrait insister, mais nous n'aurons pas l'occasion de le faire aujourd'hui, sur la tentation de la foi, à savoir le fait d'asseoir la foi sur le pouvoir. Ce dialogue très présent dans le livre avec le judaïsme, l'affirmation de la filiation du Christ qui est absolument centrale dans la compréhension du Christ, le renversement de l'alignation marxiste par cet effort de conversion chrétien, mais passons. Que conclure de tout cela? Alors, est annoncé au début du livre que ce livre est le premier. Donc il y en aura un second qui reprendra d'autres parties de la vie de Jésus qui ne sont pas abordées dans ce thème-là. Bon. Donc bientôt, nous aurons sans doute ce deuxième tome, plutôt sur l'enfance, plutôt sur la passion, considérant que dans ce premier tome, ne sont abordés que les différents épisodes de la figure biblique de Jésus, du baptême à la transfiguration. Deuxième élément de conclusion, il y a manifestement, même si nous ne nous situons pas au même plan, une réponse ou un contre-feu, si on veut, au succès du Da Vinci Code tel que nous l'avons vu depuis des années et qui, d'une certaine façon, a sapé un peu la compréhension de ce Jésus historique et a laissé se greffer sur ce Jésus historique des interprétations toutes plus farfelues les unes que les autres. Troisième point, on est là manifestement dans une remise en cause de ce travail de déconstruction qui a aussi attaqué la science biblique. Quatrième conclusion, il y a un appel clair de la part de Ratzinger, clair à en revenir à un primat du spirituel. Le primat du spirituel, dans son esprit, veut dire qu'il ne peut pas y avoir de monde, il ne peut pas y avoir de compréhension horizontale, si l'on veut, de la vie des individus ou de la vie des hommes les uns avec les autres, sans prise en compte d'une verticalité, d'une relation à Dieu. Et il dit clairement que quand Dieu est une grandeur secondaire, alors le temporel échoue, quel qu'il soit, que ce temporel soit dicté par des impératifs du libéralisme ou du marxisme. Voilà. Donc nous attendons le deuxième tome de ce Jésus de Nazareth et pensons que ce premier tome est avant tout un élément d'explication de méthode, un point clair sur les impasses de la méthode historico-critique telle que nous avons pu la voir se déployer depuis quelques années, et un appel à un retour aux sources. Merci.